Donc bienvenue à ce nouveau webinaire du groupe de travail Notebook. Bonjour Manon. On va très rapidement venir sur le sujet du jour. Donc on a Raphaël Tournoy, qui est responsable de la plateforme Epicience, qui est une plateforme de revue. Il va nous présenter, notamment parler du projet. Alors, on se posait la question, c'est Nepal ou Nepal Plus, mais voilà, on ne sait pas trop. Ah, et puis, on a donc en deuxième partie Guillaume Anciaux, qui travaille au laboratoire de mécanique des solides à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et qui est data editor pour le journal. GTCAM, Journal of Theoretical Computational and Applied Mechanics. Il va évoquer en fait une plateforme basée sur JupyterLab pour faire de la curation de données de cette revue qui est hébergée justement sur la plateforme Episcience. Donc, comme d'habitude, vous avez la possibilité de partager les notes sur le HackMD dont Sébastien vous a transmis le lien. Et puis on se retrouve après les interventions pour échanger et poursuivre la discussion. À tout à l'heure. Du coup, Raphaël, tu peux prendre la parole et puis tu peux partager aussi ton écran. Je te remercie. Et je vous remercie tous les deux d'ailleurs hein, d'intervenir, d'ailleurs.
Est-ce que vous voyez mon écran? Ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon?
Oui.
Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité donc pour parler d'Epicience et puis du projet Népal donc puisque c'est je vous expliquerai après pourquoi. Non. Donc je travaille au CCSD. Effectivement, CCSD opère trois plateformes. Donc vous connaissez l'archive ouverte HAL, également la plateforme Epicience qui est une plateforme de publication de revues scientifiques et la troisième plateforme. Et ScienceConf qui permet d'organiser des événements scientifiques. Donc, les trois plateformes ensemble forment l'infrastructure de recherche HAL+. Donc, je vais vous présenter un aperçu de la plateforme Epicience. Donc, c'est une plateforme complète d'édition et de publication de revues scientifiques. Epicience n'est pas un éditeur, c'est une plateforme de services techniques et de services. Et donc, nous n'acceptons que des revues avec un modèle d'accès ouvert Diamant, c'est-à-dire sans APC. Sans frais d'accès donc et sans frais pour les auteurs et les autrices aussi. Donc la plateforme est ouverte à toutes les disciplines, tous les pays, toutes les langues. Pour l'instant, la plupart des disciplines, c'est mathématiques, informatique et mathématiques appliquées, sciences humaines et sociales, et puis avec une ouverture vers d'autres disciplines, par exemple comme la biomécanique. Donc on accepte des revues en création ou en migration. On a des revues qui viennent d'éditeurs commerciaux ou des revues qui étaient déjà en open access mais qui ont choisi de migrer vers un modèle overlay. Donc justement, la particularité de la plateforme, c'est ce modèle overlay, donc un système de publication essentiellement au-dessus des archives ouvertes. L'idée de la plateforme a été présentée au CCSD par le mathématicien Jean-Pierre de Mailly. Donc c'est une plateforme qui vient de la communauté scientifique et qui est faite pour la communauté scientifique. L'idée, c'est de proposer à cette communauté de se réapproprier ses moyens de production et de communication scientifique de façon directe. Et donc, nous proposons un ensemble de services techniques éditoriaux au-dessus des archives ouvertes. Je vous montrerai ça par la suite. L'ensemble des briques de la plateforme fonctionne avec des logiciels libres que nous développons ou que nous utilisons. Tout est disponible sur GitHub en l'occurrence. Après, pour ce qui est du modèle overlay, donc le principe, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme prend en charge plusieurs archives. Donc, essentiellement, les premières, c'était Archive, HAL, Zenodo. Nous venons d'ajouter aussi Bioarchive and Archive. Il y avait une connexion enfin pour Software Heritage, mais qui se fait via HAL, puisqu'on a besoin de métadonnées riches pour soumettre un papier, enfin un document, un logiciel en l'occurrence. On est également compatible avec les entrepôts de type Dataverse. On va ajouter le support de Nacala prochainement aussi. Donc le principe pour soumettre et pour fonctionner avec un système overlay, c'est que tout doit être commencé dans un entrepôt, ou ça peut être un entrepôt de preprint, ou pourquoi pas de jeux de données aussi. Donc c'est le préalable. Une fois que le document est disponible en ligne, on peut le soumettre à la revue. Je vous expliquerai après comment. Ensuite, la revue va organiser le peer review de l'article. Il peut y avoir plusieurs versions, plusieurs rounds de peer review. Aujourd'hui, on supporte uniquement le simple aveugle et l'open peer review, au choix des revues et au cas par cas, article par article. Donc À chaque fois qu'il y a un round de peer review, en fait, une nouvelle version doit être exposée dans l'archive ouverte. À la fin, si l'article est refusé, l'archive ouverte, on ne le sait pas, il n'y a pas de compte rendu. Par contre, s'il est accepté, il va y avoir une phase de copy editing en général, avec une version mise en page, qui sera elle-même déposée dans l'archive ouverte et qui sera publiée. À la suite de cette publication, la version publiée recevra un DOI. Donc chaque version est disponible dans l'archive ouverte du début jusqu'à la fin de la publication pendant tout le workflow. On n'a pas besoin d'attendre que le papier soit publié pour pouvoir accéder au document, le citer, le discuter et pourquoi pas en faire une relecture. Et donc on utilise aussi le protocole Notify, je vous montrerai ça après pour communiquer entre les archives ouvertes, enfin essentiellement entre HAL et Episcience. Alors voici l'idée donc du modèle overlay. Ensuite, nous proposons un ensemble de services. Donc il y a ma collègue Céline Bartona qui est dans l'audience et qui pourra répondre aux questions si vous avez des questions sur l'offre de services. Mais essentiellement, l'offre de services et de support technique est assurée par 8 personnes. Donc le personnel CCSD, INRIA et Institut Fourier. Propose un accompagnement à la publication et à la diffusion des revues, mais aussi une aide pour la promotion, on va dire, des bonnes pratiques éditoriales, de l'aide par exemple pour le référencement des revues auprès des bases de données, de façon à ce qu'elles soient reconnu et facilement accessible. Ensuite, je vais vous montrer maintenant un exemple de proposition d'article. Donc, chaque revue a son propre domaine. Nous sommes en train de refondre les interfaces graphiques, mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un exemple avec la revue LMCS, qui est une revue en informatique. Donc, si vous voulez proposer un article à LMCS, vous allez d'abord commencer par déposer votre préprint, par exemple ici dans Archive. À la suite du dépôt dans Archive, du préprint, on obtient un identifiant Archive avec un numéro de version. En copiant-collant le numéro de version et l'identifiant, comme ici dans ce champ de formulaire de proposition d'article de la revue, on va automatiquement récupérer les métadonnées depuis Archive et les importer dans la revue scientifique, enfin dans l'MCS. Donc via un système d'API. On a également un autre système de soumission d'articles qui là est exclusif pour HAL. En plus de le système habituel où on va déposer le préprint et copier-coller l'identifiant, on a un système de soumission intégré à HAL. Le principe, c'est qu'une fois qu'on a déposé un préprint, on va pouvoir sélectionner une revue à l'intérieur de HAL, juste au moment du dépôt du préprint. Et là, on va pouvoir choisir, par exemple, ici, la revue JTCAM qui est sélectionnée. Et une fois que la revue sera sélectionnée et que l'on aura, enfin, après l'étape de validation technique de HAL, dès que le document est en ligne, on va aller envoyer une notification directement à la plateforme Episcience, qui va initier automatiquement une soumission. Donc ça, c'est un système de dépôt simplifié qui facilite la vie des chercheuses et des chercheurs pour proposer un document à une revue scientifique hébergée par Episcience. Après l'étape de soumission, il est possible de compléter son dépôt dans la revue. Donc nous proposons et nous incitons les chercheurs et les chercheuses à utiliser SoftWriteEdge pour archiver leur logiciel et aussi pour citer les logiciels qui sont utilisés dans les publications. Donc ça, c'est un exemple d'ajout d'un SWID à une publication. Donc l'idée, c'est effectivement qu'une fois que le SWID est ajouté, on puisse obtenir automatiquement l'affichage d'un widget qui est proposé par SoftWriteEdge, qui est en bas de cette page là donc. Et donc ce widget, il est disponible bien sûr pendant la phase d'évaluation, mais aussi après la publication pour consulter le logiciel dans son contexte archivé et de la publication scientifique. Donc on peut évidemment citer un dépôt complet, on peut citer même une révision, enfin on peut aller assez finement dans la citation, en fait. C'est tout l'avantage de SoftWriteEdge. Après, on a aussi une solution bien sûr pour lier les publications et les jeux de données. Ça, c'est un exemple pour lier un jeu de données. Le lien se fait juste sur la base du DOI. Après, on va récupérer automatiquement les métadonnées du DOI pour les afficher dans la revue, sur l'article publié. Et prochainement, on va ajouter un typage aussi de ces liens publication jeu de données. Ça nous permettra aussi de lier beaucoup plus facilement, par exemple, un rapport d'open peer review déposé dans HAL avec un document publié, par exemple, dans la revue JTCAM. On a également une application qui permet la gestion des références bibliographiques. Comme on travaille beaucoup, malheureusement, avec les PDF, parce que c'est le principe souvent des archives ouvertes, c'est que souvent, il n'y a guère que le PDF qui est supporté. On a une solution pour extraire automatiquement la référence bibliographique grâce au logiciel libre qui s'appelle Grobid. Et en complément, on a aussi la possibilité d'avoir un import des BibTeX pour importer les références bibliographiques. On va ajouter ou très prochainement le support de Semantic Scholar pour récupérer automatiquement les références bibliographiques d'articles qui ont été publiés plusieurs années avant. Ils sont souvent proposés automatiquement par Semantic Scholar parce qu'ils ont aussi un processus d'extraction automatique depuis les PDF. Parallèlement à ça, une fois qu'on a exporté les références graphiques, bien sûr, elles sont affichées sur la publication, sur la page web de la publication, mais elles sont également exportées pour Crossref pour être disponibles, par exemple dans le cadre d'initiatives comme Open Citations. Donc, Exemple de publication, donc ça c'est un article dans le contexte de la revue JTK avec la page web qui présente l'article. On a un bouton Download this file. On peut aussi aller voir l'article directement dans le contexte de la page HAL, avec le petit bouton à côté. Et si on clique sur Download this file, le document est téléchargé directement depuis HAL. C'est une requête qui est faite à HAL et on obtient automatiquement le PDF qui est hébergé par HAL. La revue n'héberge pas les PDF. On a une copie de backup, on va dire, si par exemple l'archive ne répond pas ou qu'il y a un timeout trop important, on va servir la copie de backup. Mais sinon, chaque téléchargement est fait directement dans l'archive ouverte. Ça permet aussi de ne pas couper le système de statistiques des archives ouvertes, par exemple. On a nos propres statistiques de téléchargement sur Epicenter, mais il y a toujours les statistiques de l'archive ouverte qu'on ne souhaite pas supprimer. Donc c'est pour ça qu'on continue à faire les téléchargements aussi sur l'archive. Exemple de ce qui se passe quand on publie un document, s'il est hébergé sur HAL, on a un mécanisme automatique qui a été mis en place et qui là aussi repose sous le protocole Core Notify. Là, quand un document est publié par Epicenter, on va envoyer automatiquement une notification à l'archive ouverte HAL. Et le principe, c'est que c'est HAL qui va aller récupérer les métadonnées sur la plateforme Epicenter, donc de l'article scientifique, pour mettre à jour automatiquement ses références bibliographiques. Donc au départ sur HAL, on a un préprint. S'il est publié, on va aller mettre à jour automatiquement le type de document. On va dire que c'est un article. Dans une revue avec l'année de publication, etc. Et puis bien sûr, la citation est mise à jour avec le nom de la revue et bien entendu le DOI qui est ajouté à l'identifiant HAL. Donc, ça, c'est basé sur un protocole qui est un protocole ouvert qui s'appelle Core Notify. Après la publication, on a aussi un mécanisme, on a aussi des services techniques qui sont ajoutés avec un système d'enrichissement automatique des métadonnées. Donc là, on travaille beaucoup avec OpenAIR Graph. Là, on réussit à récupérer par exemple plus de 3000 orchides via OpenAIR Graph, y compris pour des publications. Donc, celle-ci, elle a été importée, en fait, elle a été publiée concrètement avant que la plateforme Epicenter existe en 2013. Mais on a pu trouver automatiquement des orchides après la publication. Et pareil, on a trouvé aussi des projets financeurs, donc 1800 au total. Donc, la plupart des orchides qui sont sur Epicenter aujourd'hui viennent de ce système d'enrichissement automatique des métadonnées. Mais on a aussi un système d'enrichissement ou de récupération de métadonnées automatiques via, par exemple, Open Citations. Donc, via l'API Open Citations, on peut trouver les documents qui citent nos propres documents. Et les références bibliographiques elles-mêmes sont enrichies par les métadonnées qui viennent d'OpenAlex. Ensuite, on a aussi une phase d'enrichissement via la découverte de jeux de données liés à nos publications. Donc, ça, on fait avec SQL Explorer. Et ça marche aussi très bien pour trouver des jeux de données liés aux publications. Bien sûr, les métadonnées que nous récupérons, donc qui sont enrichies, on les redonne aussi. Donc, on les fournit par exemple à OpenAIR Provide, qui moissonne les métadonnées d'Episcience. À Crossref, quand on déclare des nouveaux DOI, on va enrichir nos DOI. Par exemple, un quart des DOI, un quart de nos publications, à peu près, comportent des orchides. Ça, c'est via ce système d'enrichissement automatique. Même s'il est possible d'ajouter aussi manuellement des orchides et des identifiants Aurore, par exemple, à notre publication. Il y a une partie qui est faite automatiquement. Et pareil pour le DOAJ, bien sûr pour HAL, où on va répercuter une partie des métadonnées qui sont ajoutées sur la plateforme Episcience. On propose aussi pas mal de formats d'export qui sont disponibles pour différents usages, et y compris des bases de données en indexation comme Zentrelpad. Donc après, les métadonnées sont aussi disponibles via un système d'API. Donc on a une API REST qui est proposée, une partie est publique, une autre partie avec authentification. Donc là, c'est sur cette API-là que certaines revues commencent à construire des services. Par exemple, ce que Guillaume pourra peut-être vous expliquer tout à l'heure. Donc, il y a une partie des données qui sont accessibles sous authentification dans cette API et une autre partie qui est publique. Mais ça nous sert aussi à construire nos prochains sites vitrines, par exemple. Enfin, site, pardon, site public des revues. Les données seront récupérées automatiquement depuis cette API pour construire des applications de présentation des documents publiés de façon plus moderne et plus dynamique. Après, on a aussi plus traditionnellement un entrepôt IPMH qui permet de récupérer l'intégralité des métadonnées de nos publications dans des formats riches comme le format d'OpenAIR. C'est ce qui sert à OpenAIR à nous moissonner. Donc voilà, bah, je vous ai déjà présenté. En gros, Epicenter est connecté à plusieurs plateformes. Donc, c'est un aperçu des plateformes auxquelles nous sommes connectés. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Je suis encore dans les temps, ça va. Donc maintenant, je vais vous parler du projet donc Népal Plus. Alors pourquoi? Parce que c'est Next Epicenter for HAL Plus. Donc si vous vous rappelez la première slide, en fait, je vous ai présenté les trois plateformes du CCSD qui fonctionnent ensemble. Donc, une des caractéristiques de ScienceConf, c'est bien sûr la possibilité de faire du peer review des communications qui sont présentées pour les conférences, avec un système de versement automatique des communications acceptées qui peut être fait dans HAL. Donc tout ce qui est communication complète avec un document en page de résumé peut être versé dans elle. Bien sûr, Episense a aussi un système de peer review qui est proposé. Et là, avec la connexion pour HAL, se fait sous forme de publication. Il est également possible pour Episense d'aller déposer, enfin, il est possible manuellement de déposer des rapports d'Open Peer Review dans HAL pour faire le lien entre une publication Episense et son rapport d'Open Peer Review. Et aussi, il est possible d'avoir un cycle complet de publication. Par exemple, on peut rédiger une conf dans ScienceConf, verser les communications dans HAL, et après, si on a une revue avec un volume, par exemple, de publication de proceedings, on peut aller publier automatiquement, importer automatiquement les articles déposés dans HAL pour créer un volume de proceedings publiés dans la revue. Donc ça, c'est un écosystème qui fonctionne ensemble et qui donc s'appelle HAL+, en fait. Et donc là, l'idée, c'est pour Népal Plus, c'est de développer un module qui soit commun à ces trois plateformes, qui permettent d'avoir un module de soumission et d'évaluation, donc on espère innovant, pour proposer un système d'examen des prépublications, mais aussi des jeux de données et des logiciels, et pourquoi pas d'autres solutions, comme par exemple les workflows, par exemple, qui sont. On pourrait imaginer aussi d'intégrer voilà, d'autres types d'objets à publier et à évaluer. Donc ce projet commence et cette année en fait et se fait en partenariat avec Daria, INRIA et Software Heritage et est financé par le FNSO. Dans ce projet, il y a plusieurs work packages. Le premier work package, l'idée c'est de modulariser et de moderniser le code d'Epicenter. Donc ça, on a déjà un petit peu commencé avec la création d'une API, mais c'est quelque chose qui doit être poursuivi parce que la plateforme à 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans maintenant, et donc le code est assez ancien, et donc au départ c'était un monolithe, et maintenant on a besoin de le moderniser pour pouvoir offrir de nouveaux services. Donc c'est la base en développement du Work Package 2 qui permettra de mettre en œuvre un système de justement plus innovant de fonction d'évaluation des jeux de données et logiciels. Et enfin, donc le dernier Work Package, il s'agit là d'ouvrir la plateforme à d'autres, enfin d'ouvrir le service d'évaluation à d'autres plateformes, notamment de l'intégrer à HAL et ScienceConf. Donc l'idée, c'est d'avoir un module d'évaluation qui soit commun à ScienceConf et à HAL, qui permette des services en lien, qui soit commun à ScienceConf et à Episcience, et qui permette d'offrir des services en lien avec HAL. Voilà. C'est ça le principe. Et parallèlement à ça, nous souhaitons aussi prendre en charge de nouveaux types d'objets à publier dans Episcience. Et donc, un des intérêts aussi de cette présentation aujourd'hui, enfin, je le souhaite, c'est d'avoir aussi des retours de la communauté ou des utilisateurs, par exemple, de notebook, pour voir comment on pourrait associer ces objets-là à ce qui est publié dans Episcience et comment on peut les intégrer dans les phases d'évaluation ou de publication aussi. Et après, Guillaume pourra vous présenter justement ce que lui a fait, a développé autour des services qui sont proposés, des API d'Episcience ou de ce qu'il a développé pour la curation des jeux de données. Donc maintenant, je vais conclure et en rappelant que Episcience, c'est toute une équipe, donc avec 4 personnes au CCSD, 3 personnes côté INRIA et une personne côté Institut Fourier, qui offre des services ou du développement informatique à tous les utilisateurs des revues qui sont hébergées par la plateforme Episcience. Merci pour votre attention. Je suis encore dans les temps.
Merci beaucoup. Je propose qu'on aille directement sur la proposition de Guillaume, qui est voilà un cas concret, et qu'on mène la discussion par la suite. Guillaume, donc il faut que je te donne les droits, c'est ça?
Ouais.
Pour finir comme présentateur, est-ce que c'est bon?
Je crois que je vois le bouton à nouveau.
Donc Guillaume, voilà, de la revue JTCAM.
Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran?
Ça marche.
Ouais. Oui.
Ouais. Ah parfait. Ok. Je vais parler des développements qu'on a fait. Dans la relation qu'on a avec ce journal, donc le journal, Journal of Theoretical Computational and Applied Mechanics, pour ce qui a trait aux jeux de données. Et clairement, je pense que c'est intéressant pour ce groupe de travail ici, puisque la structure de base qu'on utilise, c'est des briques qui sont sur la base de JupyterLab. Donc on a quelque part derrière, dans toute la machinerie que je vais présenter, on a un Jupyter Lab qui tourne et qui nous rend tout un tas de services. Et juste pour spoiler un tout petit peu, je crois que ce qu'on a atteint maintenant, après avoir dévié un petit peu pendant quelques temps, c'est quelque chose qui se rapproche un peu de l'Overleaf, mais pour des jeux de données. Donc, c'est quelque chose qui est un mode d'édition possible à plusieurs, ce qui correspond tout à fait à un travail dans une revue où on fait la curation, mais on la fait évidemment avec les auteurs et à terme avec des reviewers qui pourraient être assignés au même titre qu'on fait la review des papiers. Donc, juste pour citer un peu les bases, donc je m'excuse si vous savez déjà tout ce que je vais raconter, mais je voulais juste donner un petit peu de précision sur ce que j'entendais par data curation. Et donc, c'est aussi pour citer les bases et puis pour voir qu'on est bien dans le contexte par rapport à ce qu'on veut faire. Donc l'étape 1, ou la définition numéro 1, ce serait de valider les données. Et donc là, on parle de manière très technique de l'encodage, des formats de fichiers. Il faut bien comprendre que d'une communauté à une autre, et même dans la communauté de mécanique, quand on parle de tous les penchants qu'il peut y avoir dans la mécanique, il y a une variété assez énorme de manières de représenter les données et il faut être capable de les valider, toujours en gardant en tête qu'on aimerait les valider à un coût le plus petit possible pour le reviewer ou pour la personne validante, à savoir le journal dans notre cas. On voudrait aussi que la description soit complète pour pouvoir garantir une compréhension complète et du coup aussi une réutilisabilité. On voudrait que ça soit reusable, ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre des fichiers, par exemple, je reparlerai de cet exemple après, mais on ne peut pas mettre des CSV sans header et sans description, voire sans unité. Ça, ce n'est pas possible, en tout cas, par rapport à ce qu'on aimerait avoir dans le cadre de notre journal, en tout cas. On a un petit problème aussi du fait que ça dépend des disciplines. C'est-à-dire que les astronomes n'ont pas le même vocabulaire que les mécaniciens, même si certains objets pourraient être communs, notamment les objets mathématiques, où on fait des efforts considérables pour normaliser. Dans les objets dans une certaine discipline et les objets numériques qui leur correspondent, on n'a pas toujours le même vocabulaire. Et, donc on a quelque chose qui est assez dépendant. Mais c'est important pour la description, mais on a vraiment quelque chose qui est de cet attrait-là auquel il faut faire attention. Et en dernier, ce que je voudrais dire, c'est que qui fait la curation? Ça peut être les journaux. Donc les journaux font la curation des papiers d'une certaine manière, mais pas des datasets ou assez peu. C'est assez marginal dans ce qui se fait pour les journaux. Ça peut être les universités. Par exemple, là, l'EPFL, pour le cas dont je peux parler, les datasets qui sont produits par les collaborateurs de l'EPFL, on a un service à la Bibliothèque centrale qui passe en revue et qui vérifie que certains standards sont respectés, donc sont standards de citation, standards de qualité. Ce ne sont pas forcément toujours des scientifiques qui font cette curation, donc ça peut rester modéré. Et sinon, ça peut être des archivistes spécialisés. Donc, si on parle de données expérimentales ou de données, par exemple, d'observation du ciel, c'est quelque chose qui doit être très, très bien formaté puisqu'on ne peut pas se permettre de perdre les données. Elles sont uniques et on ne peut pas se permettre de savoir quelle a été la technique qui a été utilisée pour les acquérir. Et donc, toutes ces choses-là participent à ce que je donnerais comme définition de la data curation, qui, globalement, veut faire en sorte que les données peuvent être utiles pour faire de nouvelles découvertes et puis pour être du coup réutilisable. Et donc ça en fait quelque chose de très très central à mon humble avis dans le principe d'évolution des sciences. Donc juste pour dire qu'est-ce que nous on essaye de mettre en place au JTCAM. Donc vous voyez là sur ce slide la politique de curation et qu'est-ce qu'on demande. Donc, on peut juste passer quelques minutes dessus pour voir. On a des demandes qui sont pas exagérées, à mon humble avis, mais qui sont nécessaires. Et puis, on pourra même rediscuter. J'imagine que j'aurai des questions là-dessus, sur qu'est-ce qu'on force, parce que c'est pas toujours évident. Il y a une notion à quel point les gens et les auteurs sont prêts à participer à cet effort. Oui. Est-ce qu'ils le font dès le process de création de la donnée, ou est-ce qu'ils doivent le faire tout à la fin? Ça va pas demander le même coût, en tout cas perçu. Et donc, c'est un petit peu l'effort. Mais donc, nous, on demande à ce que ça soit open access, bien évidemment. Donc, c'est en lien aussi avec le journal qui est hébergé par EpiSciences. On va pas faire un papier qui est complètement ouvert sur des archives ouvertes et puis demander des datasets sur des archives fermées pour lesquelles il faudrait payer ou quoi que ce soit. Donc, tout doit être ouvert. L'authorship ou le ownership doit être décrit en détail. Okay. On veut une description détaillée aussi, c'est-à-dire qu'un dataset, c'est un ensemble de fichiers, un ensemble d'informations, et si on veut que ça soit réutilisable, comme je l'avais dit auparavant, il faut que tout soit assez bien décrit. On veut aussi avoir des liens, des cross-links qui soient bien identifiés, notamment avec les papiers JTCAM, ou même avec les différentes versions HAL, et aussi avec les softwares qui sont utilisés pour générer les datasets, quand on parle de numérique, ou avec les softwares qui sont utilisés pour post-traiter des données expérimentales, par exemple. Et ça, on se base, ça a été cité par Raphaël, mais on se base sur Software Heritage pour essayer de garantir des permanent ID qui tiennent sur le long pour cette information. On veut que les grants soient acknowledged et on voudrait que ça soit nettoyé. Donc, c'est volontairement un peu vague parce que ça varie d'un dataset à l'autre, ça varie d'une communauté à une autre. Mais on essaye de faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas d'informations redondantes dans le dataset. Et on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fichiers qui n'ont pas leur place ou qui auraient été générés, qui peuvent être régénérés et qui sont pas nécessaires à garder. On veut une licence qui est permissive, donc du Creative Commons. On l'impose, c'est pareil, c'est lié au principe de publication du journal et en lien avec ce qui est fait par les archives ouvertes. Autant que faire se peut, on aimerait que les file formats soient ouverts. Donc, on en reparlera, mais quand quelqu'un soumet du MATLAB, par exemple, c'est pas vraiment des données, mais c'est un code, mais ça, quelque part, selon ces critères, ça nous pose un problème. Et on aimerait avoir la description du workflow, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être sous la forme d'un makefile, ça peut être sous la forme de script. La quantité de travail à la review n'est pas la même dans tous ces cas. Et on aimerait automatiser, je reviendrai là-dessus, mais on aimerait avoir une sorte de garantie qu'on peut reproduire les résultats qui ont été mis. Là, vous voyez que la curation policy, c'est une curation policy pour Zenodo, ce qui sous-entend que nos datasets, une fois qu'ils ont été curés, ils partent sur Zenodo, ce qui est le choix du journal. Quand on parle de publication et de curation de software, j'en ai déjà parlé, on incite nos auteurs à utiliser Software Heritage. L'avantage principal, si on le compare à ce qui est GitHub, GitLab, et puis de manière générale un système de révision Git, c'est qu'on peut fixer un permanent ID, contrairement à une branche sur un de ces managers de sources, où on peut à tout moment effacer une branche, et du coup on se retrouverait dans nos journaux avec un lien qui disparaît, ce qui au niveau archivage pose un problème. Par rapport à cette question, je voulais juste aussi dire que dans ce travail de review, qui n'est pas sur les données en elles-mêmes, on demande et on regarde les repositories de sources et on aimerait bien idéalement qu'il y ait une série de tests qui soient faits sur les codes. Donc on ne peut pas pousser cet exercice très très loin, mais on aimerait au minimum avoir quelques scripts qui permettent de valider le fonctionnement du code pour pouvoir au moins reproduire les codes. On verra que ça a à voir avec le fait qu'on veut embarquer avec notre environnement les données nécessaires de version des softwares qui ont été utilisés, les versions des paquets et des librairies, des dépendances qui ont été installées avec. Et pour ça, on va utiliser un système de base Docker, mais je reviendrai là-dessus un petit peu après. Pour publier les données, ça aussi, c'est pour avoir quelques chiffres par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, on a choisi Zenodo pour les raisons qui sont énoncées ici après. La première, c'est qu'on a du long-term preservation, c'est-à-dire qu'on sait que le service de Zenodo, qui est financé par le CERN, a encore 20 années devant lui déjà financé. Après, on ne sait pas, mais bon, c'est ce qui a l'air d'être le plus stable à travers toutes les entités qui peuvent être consultées. Donc moi, je suis en Suisse, on travaille avec des gens de divers pays. Ça paraît être une bonne solution, c'est un effort international. Okay, le deuxième point, c'est qu'il est généraliste, donc il n'est pas spécialement pour la mécanique, comme pour notre journal, mais on peut y stocker des données pour lesquelles nous, on a fait le travail de curation, et ils sont assez généraux pour pouvoir stocker ce qu'on veut. On a un travail d'archivage qui est assez sérieux, dans le sens que les datasets sont figés, tout comme le DOI qui leur est associé. Par contre, on a une limite de 50 gigas, donc ça, c'est nos limites. Donc, pour certains travaux expérimentaux, ça peut être un problème. En même temps, il y aura quand même une question à se poser. Je reviendrai là-dessus au niveau écologique. Est-ce que stocker des téra de données par étude, c'est dans tous les cas relevant? Donc, les astronomes, ils vous diront que oui, parce que leurs données sont uniques et ils ont des plateformes dédiées pour ça. Dans le cadre du journal, on y réfléchit encore, mais on n'est pas encore rentré en matière sur des choses qui sont plus grandes. La limite de 50 gigas aussi, j'ai pas dit, elle est pour une publication sans modération de la part de Zenodo. On peut éventuellement lever cette limite en demandant une exception qui sera dûment justifiée. On peut modifier les métadonnées sur Zenodo, donc c'est pratique pour nous puisqu'on a l'écosystème autour des données et des journaux qui peuvent évoluer. Donc on peut en permanence rajouter des liens, faire des liens qui font du sens pour que l'utilisateur, à savoir les chercheurs, puisse faire des liens nécessaires. C'est aussi pour pouvoir établir des statistiques. C'est important qu'on puisse mettre à jour ces liens. Voilà, on a la description des métadonnées qui sont faits par le système de communauté, donc c'est la curation que j'ai dit après. Si on parle de Zenodo tout seul, eh bien, en fait, on n'a pas de système de curation à proprement parler, donc on peut publier à peu près n'importe quoi, donc c'est pour ça que c'est important que certaines personnes se préoccupent de ce qui est soumis à Zenodo, à mon humble avis. Et ce travail, il a un coût, donc c'est ce que ce cartoon essaie d'exprimer, c'est que, en fait, à la fin, qui fait le travail de nettoyer les données? Ce n'est pas toujours dans la culture des chercheurs de soumettre. C'est-à-dire qu'on peut très bien soumettre le papier. Lui, il est nécessairement propre puisqu'il a une review qui est classiquement faite. En revanche, les datasets, ils peuvent être, par le passé, ils étaient distribués à la demande et puis ils étaient nettoyés de manière sporadique. Un dataset qui est lié à de la simulation numérique, pour parler de ce que je connais le mieux, après 5 ans, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas réutilisable tel quel si on n'a pas sauvegardé tout l'environnement. Donc rien que de recompiler le code ou de le rendre réutilisable peut être un problème en soi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'outils, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a 1 an et demi, j'ai eu la chance de proposer un projet qui a été accepté, qui s'appelle Dissemination of Computational Solid Mechanics, et qui est financé par le Open Research Data Initiative, par la Confédération helvétique. Donc je suis le PI et j'ai un software développeur qui travaille avec moi sur cette plateforme. Et les buts, c'était de fournir une plateforme cloud pour pouvoir stocker et redistribuer la production de la communauté de Solid Mechanics. Okay? Donc c'était assez restreint. Vous allez voir que le truc a un petit peu évolué entre-temps, mais c'était le but. On voudrait vérifier, analyser et annoter les datasets. Moi, ce que j'avais comme requête, et je pense que c'est quelque chose d'assez sain, c'est qu'on voulait un outil un petit peu comme Git, c'est-à-dire que Git, vous pouvez le lancer sur votre machine, faire vos manipulations localement, et puis vous pouvez envoyer les résultats sur un serveur distant. Vous pouvez faire les deux, et donc on a conçu nos outils de cette manière-là. Néanmoins, on a une plateforme qui s'appelle DCSM, donc pour Dissemination of Computational Solid Mechanics.epfl.ch, qui contient les datasets qui sont en process de curation avant d'être exportés à Zenodo. Et JTCam utilise cette plateforme pour faire la curation. Le projet principal, ou le software, il s'appelle SolidIPES. Donc c'est juste un slide rigolo pour dire SolidIPES, c'est en fait un champignon. C'est un champignon qui forme des racines excessivement vastes, de telle sorte que possiblement c'est le plus grand organisme vivant sur Terre en termes de masse. Ça n'a rien à voir avec les solides en réalité, mais Solid IPS faisait que ça était un nom rigolo pour ça. C'est un paquet PIP, donc vous pouvez l'installer pour tester ce qu'il peut faire, fournir comme service pour vous en local. Et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu le principe. Mais si vous le lancez en local, en gros, Solid IPS, il fait les différentes actions qui sont là. Donc la première, c'est qu'il vous garantit un accès remote, de telle sorte qu'on n'est pas obligé nécessairement de copier les données. C'est-à-dire que si on est en train de faire la curation d'un dataset de 50 gigas, j'ai pas forcément la place sur mon laptop pour pouvoir les télécharger. Néanmoins, je voudrais pouvoir procéder à la curation. Donc, il y a un système de montage qui est garanti par le software qui permet d'avoir ça. Donc, à partir du moment où les questions de credentials sont résolues, on peut faire le montage et commencer à travailler à distance, même si on n'a pas la place localement. Ensuite, le process va scanner les fichiers. Et puis, pour chaque fichier, il va déterminer le file format ou l'encoding. Il va extraire les métadonnées. Donc, l'exemple typique, c'est extraire les headers qui sont associés à des fichiers CSV, par exemple, les métadonnées qui sont stockées dans les images, des descriptions pour des champs, pour une simulation élément fini, pour quelque chose qui a trait avec Solid Mechanics. Ensuite, on va faire un load partiel de la donnée qui nous permet de faire une validation. Pourquoi je dis partiel? C'est parce que, par exemple, si on a des très grandes images, valider que on a l'information de quel était l'objectif qui a été utilisé pour faire la photo, ça demande de lire qu'une sous-partie du fichier et on arrive à le faire relativement rapidement. On ne veut pas détruire l'expérience utilisateur et on ne veut surtout pas le décourager de procéder à la curation de ces données. Donc, on essaye d'optimiser toutes ces choses-là. Je peux vous garantir que ce n'est pas tout simple. Ensuite, on est capable de générer un rapport qui peut prendre plusieurs formes. Donc, un rapport en texte, un rapport sous la forme d'un Jupyter Notebook et un rapport sous la forme d'une web app qui permet de regarder et d'explorer un petit peu le dataset pour que quelqu'un qui a le papier à côté puisse éventuellement ouvrir les fichiers et contrôler que les figures sont bien, les données associées aux figures sont bien contenues, etc. Si on est complètement validé, eh bien, on peut procéder à l'export. Donc, on a deux types de plateformes, donc Zenodo et Renku. Renku, c'est une initiative suisse qui se rapproche un peu de Binder, mais vraiment pour pouvoir faire de l'open research data. Donc, ce que ça fait, c'est que ça lance un Jupyter Lab qui va pouvoir nous permettre d'explorer les données. Et donc, comme on le lance à la demande, on a embarqué avec toutes les données d'environnement. Donc, c'est sur une base de service containerisé, donc avec des Docker, où l'utilisateur, et en l'occurrence, dans le cas du journal, c'est les curateurs qui vont s'assurer que le conteneur contient toute l'information pour pouvoir relancer les codes si c'est un aspect qui était important. Et donc, dans ce cas-là, on est capable d'aller, on a une page web qui nous permet, même sans être authentifié, de demander de revoir le dataset et de jouer un petit peu comme Binder, finalement, pour ceux qui connaissent dans le contexte des Jupyter Notebooks. Et par rapport au journal, nous, ce qui est encore plus important peut-être, c'est qu'une fois qu'il est curé, on veut l'exporter sur Zenodo, de telle sorte qu'on le fige là-bas avec un DOI, il est citable, et il ne bouge plus, c'est la version définitive associée au papier. Donc, je voulais faire une petite démonstration de ça. Vous voyez toujours mon écran ?
Oui. Oui,
oui. Ouais, ok. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la plateforme en elle-même. Bon, je reviendrai là-dessus. Je dis juste quelque chose. Vous voyez, là, j'ai les différentes entrées pour lesquelles je suis en train de procéder à la curation. Et si je veux créer une nouvelle curation, j'ai ce gros bouton rouge. Je vais pas le cliquer là maintenant pour pas perdre trop de temps. Mais en fait, au moment de la création, ce que je peux faire, c'est via l'API que Raphaël a décrit tout à l'heure, je peux dire, je veux créer un dataset vierge avec les métadonnées qui sont associées à celles du papier qui a été soumis, de telle sorte que j'ai un travail moindre à faire pour la version initiale du dataset. Ensuite, si je reviens, la vue principale actuelle, donc tout comme pour EpiSciences, l'apparence est en train de bouger quelque peu, mais c'est l'apparence actuelle. On voit d'abord les métadonnées qui vont être associées au dataset. Donc, ce que vous voyez ici, grosso modo, c'est les métadonnées qui vont finir sur la description de l'entrée de la page Zenodo associée au dataset. Et donc, on voit le titre, les auteurs, les licences, langage, les références croisées. Donc, il y a des références sur le Software Heritage dans ce cas-là et les références sur le papier JTCAM, par exemple. Ensuite, une description. Et ce qui nous intéresse peut-être plus après, c'est les fichiers en eux-mêmes qui ont été soumis. Donc, on voit ici une liste des fichiers et à chaque fois un indicateur. Donc, ici, c'est un dataset que je vous montre pour laquelle la curation a déjà été faite. Donc, tout a été validé. Mais évidemment, on aurait d'autres symptômes si ça n'avait pas été le cas. Et ça nous permet de regarder. Donc, peut-être ce qui est le plus intéressant là, c'est de voir que si je veux par exemple regarder ce fichier, donc c'est une séquence de fichiers VTK, donc qui contiennent des maillages. Avec le curateur, je peux les regarder et puis je peux faire tout un tas de procédures qui permettent de faciliter la vie du reviewer. Par exemple, là, je veux voir la frame numéro 44 et puis je voudrais voir le champ de déplacement. Et puis, d'un seul coup, je le vois. Ça me permet assez rapidement, un petit peu comme si c'était des images. Donc, ça, c'est de checker qu'il y a une consistance entre ce qui a été publié et ce qui est contenu dans le dataset. Évidemment, c'est pour ce qui est des CSV, on peut le faire, etc. Il n'y a pas vraiment de difficulté. C'était plus une difficulté d'arriver à faire du rendu 3D dans un browser. Et on travaille encore sur cette question parce que quand on a des très, très gros maillages, eh bien, on est en train de mettre en place des techniques qui se rapprochent de fabriquer des miniatures pour pouvoir regarder le maillage rapidement, même si le maillage est assez conséquent, de telle sorte que le travail du reviewer, encore une fois, soit facilité avec une user experience qui est bonne, même si derrière, il y a eu du calcul offline qui a été fait pour faciliter cette expérience. Et on veut naturellement avoir accès à toutes les données. Voilà. Ici, si je reviens, on voit que là, il est en train de reloader. On a trois types d'accès qui ont été fabriqués. Donc, le file browser, c'est tout simplement dans le browser une possibilité de voir le contenu des fichiers. Et pourquoi c'est essentiel? C'est parce qu'au démarrage, quand je lance la curation, en général, le dataset est vide et je demande à mes auteurs via ce lien d'uploader leurs fichiers. Et puis, du coup, je peux démarrer la curation là-dessus. La deuxième vue possible, c'est un Jupyter Lab. Je vous ai donné un exemple ici. Et puis là, ça nous donne une possibilité de regarder un peu ce que le module SolidIPES peut faire. Donc, en gros, on peut le voir d'une certaine manière comme un outil qui est capable de lire à peu près tout ce qui est relevant pour la communauté. Donc, en l'occurrence, ici, là, je vais charger un CSV. J'espère que j'ai pas de malédiction sur les présentations live. Voilà. Donc, le CSV est loadé automatiquement. Donc, c'est pas forcément super impressionnant. On peut demander s'il est dans un état valide. Donc, on a accès à l'API finalement interne qui est utilisée par la partie web qui a été présentée auparavant. On peut accéder à des images. Voilà. Et on voit que le but, encore une fois, c'est vraiment de faciliter les choses. Et là, peut-être moins pour un reviewer, mais pour un utilisateur qui voudrait réutiliser les résultats. Donc, par exemple, si je veux re-regarder un des maillages que j'avais présenté auparavant, je peux relancer. Donc, évidemment, ça marche pas. Bon, je sais pas pourquoi, il faudrait que je le relance, mais je l'ai lancé il y a un quart d'heure et j'avais évidemment la vue 3D. Donc pour ma défense, hein, le projet est encore assez jeune, on a une deuxième mouture qui devrait arriver et on essaye de stabiliser tous ces petits bugs. Mais en l'occurrence, normalement, j'aurais dû voir le dataset, le mesh. Finalement, l'entrée Zenodo qui est exportée, elle ressemble à ça et c'est ce que je vous disais, toutes les métadonnées, elles sont exactement tirées de la saisie qui a été faite auparavant. Ce qui facilite aussi la vie. Et on a un zip qui est généré automatiquement, qui contient toutes les données qui ont été curées avec la description. Et on essaye de limiter les étapes, encore une fois, pour pouvoir aller plus vite jusqu'à l'objectif qui est d'avoir un dataset propre. Donc, la philosophie derrière SolidIPES et DCSM, et puis dans le contexte JTCAM, c'est la suivante, c'est qu'un chercheur, il travaille pour lui dans un premier temps, il fait des acquisitions, des travaux, il prépare son jeu de données finalement. Et puis, pour ça, il pourrait éventuellement utiliser le desktop SolidIPES, c'est-à-dire qu'il lance SolidIPES directement sur sa machine, et puis il contrôle que c'est OK. Et une fois que c'est OK, il peut l'exporter finalement. Il peut l'exporter vers différents repositories, différents emplacements de stockage, ce qui ne nous empêche pas de déployer le service, le web service, puisqu'on a vu qu'on était capable de faire du montage à distance. Donc ça, c'est un petit peu la même idée finalement que EpiSciences. On a du stockage qui est un peu délié du service en lui-même, puisque c'est en soi un problème de financer le stockage, en particulier pour ces quantités de données. Donc on essaye de pallier à ce problème par ce moyen-là. On laisse la responsabilité à des gens de fournir accès au dataset, et nous, on fournit la couche par-dessus qui nous permet de faire la curation des données. L'intérêt, c'est que n'importe qui peut réutiliser les données et les retélécharger à travers l'interface web. On peut faire des exports sur Zenodo ou bien sur Renku. Et évidemment, une fois que c'est sur Zenodo, on peut à tout moment réimporter. Donc on a fabriqué notre système de telle sorte que même si on efface tout le reste, vu que c'est archivé dans Zenodo, on peut revenir dans l'état de curation avec les Jupyter Lab qui va bien, etc., à n'importe quel moment. Et on a vraiment pensé les métadonnées qu'on acceptait d'insérer dans les datasets de telle manière que ça reste possible même sur le long terme, même si les versions de SolidIPES, DCSM changeaient, même si elles devaient venir à mourir même. On essaie de faire en sorte que ça soit possible, qu'il n'y ait pas de données cruciales à l'intérieur qui empêchent de faire ça. Et du coup, ça permet évidemment de faire la même chose sur son desktop, ce qui est l'objectif de réutilisation des données au même titre que son archivage. Donc voilà, c'est un résumé des features qu'on a avec quelques exemples, c'est ce dont je viens de parler, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je peux simplement dire, c'est que le web service, encore une fois, c'est un Jupyter Lab qui sert de proxy pour l'application web que je vous ai montré, pour le file browser que je vous ai montré, et évidemment pour le Jupyter Notebook qui est fait lui-même. Et on a deux possibilités de le faire, soit on l'héberge sur la plateforme de curation DCSM, donc ce que je vous ai montré, soit on les exporte sur Renku, ce qui permet, même si la curation est complètement finie, en mode read-only, de pouvoir explorer avec le Jupyter Lab le dataset qui a été publié. Par rapport au JTCAM, c'est tout bête comment ça se produit, c'est-à-dire que l'auteur publie ses données donc du coup dans le web service. JTCAM fait des annotations, des modifications ou des commentaires et des reviews. Il y a un système de discussion qui est un petit peu simple à l'heure actuelle, mais il y a un système de discussion qui est possible sur le jeu de données qui permet d'échanger avec les auteurs pour leur dire « j'aimerais que tel aspect soit amélioré, ce fichier, es-tu sûr qu'il doit rester, etc. » Toutes les questions qui peuvent à venir avec. J'arrive à ma conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis sûr que oui, puisque je parle toujours trop longtemps. Mais du coup, où est-ce qu'on en est? Quel est l'état actuel? C'est qu'on a la possibilité de faire la curation. Donc on a des systèmes de loader et de viewer qui ont été à peu près automatisés. Ils sont flexibles par rapport au data storage, c'est-à-dire qu'on a une liste qui n'est appelée qu'à grandir de points de montage qu'on peut utiliser pour accéder aux données. On n'est pas techniquement obligé d'avoir accès aux données. Que ça soit pour le web service, tout comme pour quand on lance la chose sur sa propre machine. On peut exporter à l'heure actuelle sur Zenodo et Renku. Même chose, cette liste est appelée à augmenter, mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. On essaie de satisfaire la curation policy de JTCAM pour ces datasets. Et on a une documentation qui évolue, qui est en construction. La fin du projet est officiellement fin août, donc on devrait avoir quelque chose qui est dans un état très très satisfaisant, en tout cas c'est ce que j'espère, à la fin de l'été. Et les étapes qui restent à faire après, donc on a peut-être la possibilité d'avoir un nouveau grant pour pouvoir continuer cette aventure et améliorer les choses. Et ce qu'on aimerait faire, c'est essayer de varier un petit peu, sortir un peu du carcan simplement de la mécanique de JTCAM. Et pour ça, on aimerait avoir des principes d'ontologie. Donc, c'est une description des données et des métadonnées qui peuvent être produites sur un dataset, ce qui nous permettrait d'automatiser et de spécifier les validations qui seraient à mettre en place par une communauté. C'est-à-dire que les astronomes ont besoin de valider certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous on a besoin. Donc, ils vont devoir écrire du code pour faire ces validations. Et donc, il faudra mapper des descriptions, okay, ce qu'on espère d'une photographie en astronomie, avec une routine qui vérifie que l'information est présente. Donc, ce système serait en développement prochainement, si tout va bien. On aimerait avoir une description complète des workflows. J'en ai assez peu parlé. Tout ce qu'on garantit à l'heure actuelle, c'est assez manuel. C'est-à-dire que c'est à l'auteur ou au reviewer de fournir sous la forme d'un container la description qui permet de reproduire l'état au moment de la génération des résultats. Et on aimerait bien trouver des solutions pour optimiser ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fournir à SolidIPES la possibilité, par exemple, d'explorer l'état actuel du système et de garder le maximum d'informations, quitte à fabriquer certains Docker. Ça a l'air très ambitieux. Il y a quelques projets qui traitent de ça et on aimerait bien aller vers ça. Un autre point, c'est qui me tient à cœur personnellement. J'aimerais bien qu'on, je vous avais noté la limite de 50 gigas. J'aimerais bien qu'on s'amuse pas à stocker sans trop réfléchir, juste parce qu'on peut le faire, des terras de données. Et j'aimerais bien, en tout cas pour ce qui est de la simulation numérique, mettre dans la balance le coût CO2 pour produire la donnée versus son coût pour le stockage estimé à hauteur du nombre d'années pour lequel on veut rendre pérenne le dataset, et mettre les deux dans la balance. Et j'aimerais bien qu'on explore cet aspect prochainement, dans la prochaine mouture du projet, pour pouvoir au moins donner un conseil aux auteurs en disant, voilà, vu les informations que j'ai, vu le temps de calcul sur tel cluster, ça a produit tel CO2, vu le temps que tu voudrais pouvoir maintenir la donnée, ça paraît pas raisonnable de stocker toute la donnée, décris bien tous les inputs et comment reproduire. Et à ce moment-là, ça suffira de stocker ça. Ce qui reste à faire, évidemment, c'est un système de plugin qui permet de rendre les évolutions de SolidIPES très versatile, donc très, très flexible, de telle sorte que chaque communauté, chaque sous-partie du projet puisse être contribuée de manière assez indépendante. Idéalement, je vois bien quelque part, en relation peut-être avec EpiSciences, un module qui serait pour une discipline donnée pour un journal, ou même un journal qui développe son module de curation, qui contiendrait tous les jeux de données et toutes les descriptions qui ont attrait à sa communauté et les validations qui y sont associées, de telle sorte que la machinerie interne puisse profiter au plus grand nombre et que ce principe puisse être un succès. Et voilà, je crois que j'ai fini de parler et je suis ravi de répondre à vos questions.
Merci beaucoup. Merci, c'est très chouette. Enfin, je crois que du coup, il y a probablement plein de collègues qui ont des questions. Il y a eu quelques échanges plus timides que d'habitude hein, sur le chat. Donc, je pense que les collègues étaient vraiment très attentifs à l'ensemble de la chaîne que tu as décrite. Marc, tu n'as pas de micro. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez prendre la parole. D'accord. Je vais le lire, mais je ne sais pas si je comprends tout. Il y a l'idée d'avoir des liens de synchronisation. Peut-être toi, tu comprends mieux, Sébastien, parce que la question posée par... Je te laisse prendre la parole, Sébastien.
Alors, je peux lire la question. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre non plus totalement. En gros, il y a R5 qui est effectivement un protocole de synchronisation incrémentale. Et du coup, sur la question des relevant samples, est-ce qu'il est possible de faire une discussion sur Makefile as a doc, sachant que dans vos disciplines, vous portez une attention au format de sérialisation. Est-ce que ça te parle, Guillaume?
R-Sync, en fait, si je comprends la question de Marc, par rapport à ce que moi j'ai dit, c'est pour faire des R-Sync partiels. C'est-à-dire que si on avait une grande arborescence, on pourrait dire je veux faire un R-Sync d'une sous-partie pour pouvoir l'avoir. Alors, moi, j'ai rien contre, mais Du type Git annexe aussi. Ouais. Alors Git annexe et Git LFS, c'est quelque chose qui est utilisé par Renku. Quand le jeu de données devient grand, c'est assez catastrophique. Git annexe, c'est bien, mais si on n'est pas master en Git, c'est peut être vite compliqué. Moi, je trouve personnellement. J'ai été utilisateur. C'est un petit peu difficile. Mais du coup, rsync en particulier, bah, c'est de la copie. Hein. Donc, moi, on est plus sur un autre système qui est vraiment du montage. Donc, on fait du montage, soit c'est du montage Samba, soit c'est du montage JuiceFS, soit c'est ce type de choses, avec un système de cache qui permet que la donnée, finalement, qu'on a besoin, elle est téléchargée à un moment donné, et puis après, si on la réutilise la seconde d'après, elle n'est pas retéléchargée. Donc, ça permet de pallier un petit peu à une question qui pourrait venir par rapport à ça. Mais j'ai pas basé mon système sur quelque chose qui est vraiment de la synchronisation. Donc, le truc, c'est qu'il faut reconnaître que pour certains SSHFS Samba trop long et lourd. Ouais, mais le problème, c'est que si on n'a pas assez de place localement, on peut pas faire. Après, il y a certains protocoles qui permettent pas de le faire effectivement. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer demander une copie locale. Mais moi, à titre personnel, j'aurais aimé essayer d'éviter au maximum de déplacer l'information. Moi, je parle de la tâche de la curation. Si on parle de la réutilisation, peut-être qu'effectivement le rsync peut faire plus de sens parce qu'on veut vraiment récupérer le dataset et travailler avec. Si je veux simplement le valider, ouais, donc du coup, ça fait du sens ce que vous dites. À ce moment-là, il faudrait le récupérer les données parce que de toute façon, on est soit sur un laptop et on a assez de place, soit on est sur un cluster et on a assez de place. Donc pourquoi pas la copier puisque on va vouloir faire du HPC. Pour la curation, je reprends mon exemple des images. Peut-être que j'ai besoin de certains chunks du fichier, c'est-à-dire l'en-tête, simplement pour valider ce qui est validant. Et donc, j'ai pas besoin de télécharger toute la donnée. Et donc, je vais pas demander à des reviewers du JTCam de télécharger 50 gigas si, en fait, ils ont pas besoin. Donc, c'est dans ce point de vue-là qu'on a fait. Et on avait un très beau projet, je sais pas si vous connaissez, Marc, ça s'appelle JuiceFS, qui permet d'utiliser sur une base de S3 un téléchargement par chunk avec un système de cache qui est relativement bien fait, qui permet finalement de télécharger à la demande même des sous-parties de fichiers. Et pour l'utilisation qu'on en a, ça c'est pas mal. C'est pas mal. JuiceFS, ça s'appelle. Ouais.
Sébastien?
Et pour l'autre question, pour les Makefiles as doc, je suis pas sûr de comprendre la question. Hein. Je sais pas si tu peux.
Alors du coup, pendant qu'il écrit la question, juste, c'est plus une remarque. Hein, c'est sur on avait vu une présentation assez intéressante sur le réseau des synchrotrons, qui avait un peu la même problématique, qui générait des téraoctets de données, et les gens venaient en avion pour les consulter, ce qui était un problème au niveau CO2. Et c'est vrai que l'approche qu'ils ont développée, c'est-à-dire qui ressemble un petit peu à la vôtre quelque part, c'est de développer des outils sur lesquels les gens se connectent et ils peuvent directement visualiser quelque part la donnée qui, elle, ne bouge pas. Et ils avaient donné quelques chiffres sur le CO2, hein, du coup, économisé. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que quelque part, ils avaient la possibilité de faire du LTO, donc de la stock et de remobiliser vraiment les données quand les gens ils en avaient besoin, quoi, avec un ou deux jours de décalage. Mais finalement, c'est pas grand-chose. Et là, on était de l'ordre du gramme de CO2, quoi. C'était vraiment très peu. Ça peut être intéressant, enfin une piste à explorer, et eux, ils avaient l'air d'aller vers cette solution-là, quoi.
Ah, et c'est un très bon point, c'est super. J'ai eu des discussions avec les gens de Zenodo. Malheureusement, ils ont des problématiques assez importantes sur des téléchargements massifs de leur jeu de données, ce qui fait que autoriser un point de montage en mode streaming, c'est pas dans leur agenda immédiat. Donc, ça veut dire que nous, on est forcé soit d'avoir, bah, par exemple, Renku qui aura une copie des données qui sera consultable et montable. Soit il faudra de toute façon copier la donnée si elle est stockée sur Zenodo. J'adorerais, moi je suis fan de ça, de dire. Après, faut être conscient aussi que si on doit transporter l'information entre deux sites, mettons entre le site au CERN, donc c'est à Genève, c'est pas très loin de l'EPFL, mais ça fait. Il faut quand même mobiliser des réseaux pour transporter l'information jusqu'au web serveur qui fait l'interface qui nous permet de visualiser. Et donc il y a un coût CO2 associé au réseau. Mais ça m'a l'air quand même mieux que de dupliquer l'information partout, sachant qu'on ne sait pas pour combien de temps. Mais au minimum, moi, ce que je voulais juste dire et mobiliser là-dedans, c'est qu'il faut juste être conscient que le stockage n'a pas zéro coût et que si on fait une simulation de dynamique moléculaire, encore une fois, pour parler de ce que je connais, qui est plusieurs téra, en fait, dans la pratique, il n'y a pas grand monde qui la regarde. Donc, il y a l'intérêt à être très, très intéressante et à avoir des outils qui permettent facilement de la regarder, sinon, en fait, ça ne sert à rien. Et du coup, à ce moment-là, ça devient un vrai problème de garantir qu'on peut reproduire les résultats. Parce que si on achetait les résultats, comment on garantit qu'on peut les reproduire? Ça, c'est une question, à mon avis, difficile.
Je me permets d'intervenir parce que c'est vrai qu'il y a un point là où on a parlé pas mal de techniques, on va dire, qui est très intéressant parce que je pense qu'il y a des choses à échanger par rapport à l'expérience sur laquelle vous êtes. Mais je suis allée, moi, sur un exemple de Zenodo et je trouvais aussi que la démarche enfin, la précision de la curation, donc la notation du jeu de données, des éléments qui figurent. Là, j'en ai un exemple là sur un champ que je connais un tout petit peu qui est. Les papiers de Martouret. Il y a aussi là un effort de description, je trouve, qui est très intéressant et qui permet effectivement peut-être de réduire la voilure ou le volume ou les besoins qu'on peut avoir en termes d'après d'implémentation pour éventuellement rejouer ou reproduire. Parce que c'est vrai que dans le GT, on a aussi cette question justement de l'écosophie. Hein. C'est pour ça que Marc était content de la mention. De la question du CO2 notamment, mais pas que. Et je trouvais que le principe, je voulais savoir si, y compris sur la plateforme Episcience, Raphaël, cette question-là de la curation des jeux de données ici, bon, et puis après, bien entendu, aussi, ou du code, etc., c'était quelque chose que vous regardiez de manière précise. L'exemple, là, c'est que sur le dépôt Zenodo que je vois, il y a des collègues qui sont mentionnés comme ayant contribué à la curation des données et pas forcément à la production des données. Voilà. Donc, je voulais savoir si ces rôles-là, par exemple, sur les projets dans les revues Episcience, c'était aussi quelque chose que vous approchiez de cette manière-là ou autrement.
Donc pour l'efficience, c'est un effort que nous devons faire. Enfin, c'est pour le fait de rendre compte des rôles exacts de chaque personne dans les publications. Aujourd'hui, on est dépendant de ce qui est fourni par les archives ouvertes, des métadonnées qui sont envoyées. Et autant pour HAL, ce niveau de granularité-là, je suis pas sûr. En tout cas, on n'est pas spécialisé dans les jeux de données, donc ça va pas le faire, par exemple, je pense. Au niveau des publications, c'est possible, mais c'est pas encore pris en compte côté efficience. Donc ça, c'est une chose qu'on doit améliorer. Par contre, sur d'autres archives, comme par exemple Archive, c'est pas du tout. Enfin, ces rôles-là n'existent pas en fait. Enfin, les métadonnées qui sont proposées sont relativement pauvres entre guillemets. Donc là, oui, il y a clairement un travail à faire. Mais la difficulté pour nous, en fait, c'est de savoir où. Idéalement, ce travail devrait être fait toujours au niveau de l'archive et on devrait récupérer les métadonnées. Malheureusement, on s'aperçoit qu'on est obligé de commencer à créer nous-mêmes des métadonnées, à essayer de les redonner après aux archives ouvertes. Parce que les archives ouvertes ne font pas tout, enfin, pas non plus tout leur demander, mais tout n'est pas pris en charge et le même niveau de fonctionnalité n'est pas disponible sur chaque archive ouverte. C'est un peu la difficulté aussi qu'on a avec le système Overlay. Et pour ce qui est des préoccupations en termes de CO2, ben, en fait, c'est pas, nous, on n'a pas de directive aujourd'hui par rapport à ça, donc c'est vrai que c'est une préoccupation intéressante. Au final, on ne duplique pas les données, c'est déjà une chose qui est intéressante. Donc, les données sont hébergées une fois, même si elles sont publiées et disponibles depuis plusieurs endroits. C'est une chose. Effectivement, quand on déclare un DOI, par exemple à Crossref, on déclare les liens vers toutes les données, y compris les versions précédentes des préprints. Donc, c'est possible en regardant normalement un DOI Episcience, on devrait pouvoir trouver les liens vers tout ce qui existe ailleurs, les versions précédentes, et savoir que telle version est à préprint, etc. C'est ce qu'on souhaite continuer à faire. Par exemple, pareil pour les liens vers le logiciel, mais toujours en essayant de ne pas dupliquer les informations, mais de faire des liens.
Et je pense par rapport à ce que tu as montré, Guillaume, là, moi je trouve que c'est, j'ai envie de dire banco, hein. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup, on est quand même beaucoup à être dans, enfin, toutes les nouvelles revues là qui sont sur, effectivement, il y a de l'évaluation de jeux de données, on est un petit peu les, bon, c'est pas les mêmes formats de fichiers, et puis même, j'ai envie de dire, c'est peut-être même moins compliqué que d'afficher de la 3D dans un navigateur. Je pense au SHS, hein, par exemple, où on va avoir du CSV. D'abord en première partie, puis après on aura peut-être des choses un peu plus compliquées comme des cartes ou mais voilà, on n'aura jamais forcément de la 3D avec de la simplification à faire parce que ça s'affiche pas. Enfin, on aura quand même des choses plus simples. Est-ce que à combien t'estimes ce coût de, bah, de modifier un petit peu Solidipi, je vais pas y arriver, Solidipes, voilà. pour comment on fait, comment on ferait pour participer? Quelle perspective tu as par rapport au développement de cet outil-là? Et est-ce que vraiment vous, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse du côté de Nephal Plus voilà, de rendre plus générique peut-être l'outil à l'articulation entre JTK et efficience?
Alors je réponds à la première partie, puis je te laisserai répondre, Raphaël, sur la deuxième partie de la question. Moi, je veux vraiment que le truc, je pense que c'est vraiment pas mal ce qu'on a construit, et il y a moyen que ça prenne bien, que ça soit un outil qui soit apprécié. C'est vraiment dans l'agenda assez prochainement de faire un système de plugin qui permettra en gros de décrire une série de descriptions de fichiers. Donc, nous, on a deux types d'objets, on a les loaders et les viewers. Et les loaders, ils loadent en gros un fichier particulier ou une collection de fichiers ou une archive ou ce genre de choses. Et les viewers, ils permettent de le voir sous les différents formats, donc Jupyter, etc. Et donc c'est ces deux choses qu'il faut coder, mais pas toujours, parce que ça peut être, si on prend l'exemple d'une image, on pourrait très bien avoir un format de fichier image qui n'est pas loadable, mais une fois qu'il est monté en mémoire, il est viewable. Donc la quantité de travail, elle est pas toujours la même. Ceci étant dit, dans le pire des cas, il y a ces deux choses à faire, et donc ça correspond à deux fichiers qui il faut décrire comment on peut détecter que c'est ce fichier-là, il faut décrire comment le monter en mémoire, et ensuite il faut décrire comment le représenter, et tout est fait en Python. Et à terme, ça sera simplement un module Python à écrire. Donc on donnera des templates, on pourra créer un nouveau repository avec la base, avec des viewers et des loaders vides. On l'utilisera, et puis si ce module-là est loadé, donc il faudra soit l'importer via PyPy, soit directement via un lien SSH, pardon, via un pip install, mais avec l'URL complète du repository. Mais si le module sera chargé dans le contexte, ce sera suffisant pour que SolidIPS puisse utiliser les validateurs et les loaders. C'est comme ça que je vois les choses, pour optimiser la contribution des gens et des différentes communautés. Maintenant, pour essayer, s'il y en a que ça tente d'essayer, de regarder, la plateforme DCSM, elle est open. Je le dis là, comme ça, il y aura potentiellement beaucoup de gens qui voient. Si vous pouvez aller, tout ce que ça demande, c'est d'avoir un ORCID pour créer des datasets. J'ai un certain volume de stockage qui est disponible, qui est financé pour une dizaine d'années. Donc, à part le moment où ça devient n'importe quoi, ou bien la machine crash parce qu'il n'y a plus de ressources, vous pouvez aller voir et aller jouer. Mais c'est sympa de m'envoyer un petit email si vous le faites, comme ça je sais que vous êtes pas là. Mais en gros, il faut juste un ORCID, et puis vous pouvez déjà commencer à créer des datasets et regarder. Et pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'on compte faire avec AP Sciences? Je te laisse répondre, Raphaël, peut-être.
Bah, moi, je suis pas chercheur, mais je suis très impressionné par le travail de Guillaume et son équipe, enfin, ce qui a été fait. Je trouve ça super. Donc, évidemment, on n'a pas du tout les moyens de faire ça dans le cadre du projet Népal Plus. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de proposer des solutions et de s'interconnecter avec des outils comme ça et de favoriser leur adoption. De proposer de notre côté, par exemple, des API ou choses comme ça. Également aussi échanger un système de notification, par exemple, quand un travail est fait sur un dataset, on est capable de recevoir une notification de l'application. Et de déclencher des événements côté efficience pour par exemple, modifier les rédacteurs, les rédactrices, etc. Donc ça, C'est ce type d'intégration-là que je souhaite faire, effectivement.
Moi, j'ai plein de questions, mais pour toute l'après-midi. On n'a pas parlé des forges, mais j'imagine que c'est quand même. Enfin, je crois pas qu'on en ait parlé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des forges, avec des issues, avec des machins, des trucs. Je sais que nous, on a un peu organisé notre workflow éditorial, par exemple, pour la revue de code et la revue de données autour de ça. Est-ce que vous, ça n'a pas l'air d'être dans les pratiques ou pas forcément? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages d'intégrer aussi à SolidIPES ou pas?
Alors, historiquement, j'ai démarré avec un système qui était, puisque derrière Renku, en fait, c'est un GitLab. J'en ai pas parlé, mais la solution qui est comme un binder, le binder suisse, on va dire, c'est un GitLab derrière qui fait le management, qui gère la Docker, et donc c'est dans de la continuous integration qu'on construit les images Docker qui sont utilisées pour déployer le service. Et donc, il y a un GitLab qui est là, et donc moi je m'étais dit, ah bah super, c'est génial, je vais utiliser les issues GitLab pour pouvoir, quitte à faire même un process avec des merge requests, pour pouvoir gérer l'évolution des données, etc. Sur le code, c'est super, moi SolidIPES s'est développé avec ce genre de stratégie pour du développement de code. Le problème, c'est que pour les données, ça change tout. Les données sont trop grosses. C'est très 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 rapidement l'enfer de gérer ça en révisionnant les choses. Et donc j'ai été forcé d'abandonner. Donc c'est pas que je veux pas, c'est que en tout cas Git n'est pas super adapté pour ça. Dès que le dataset devient un peu trop grand, juste rafraîchir l'index, c'est pas bon. Et du coup, je me retrouvais avec une situation où j'avais certaines données qui étaient dans le repository, pour lesquelles GitLab était au courant, donc je pouvais utiliser système d'issue, et certaines pas. Et du coup, je pouvais pas, et donc je partais développer un système avec deux parties, je me suis dit non, ça va pas. Donc on a fait un truc un petit peu sommaire pour l'instant, mais un truc qui permet de discuter, de commenter des choses sur le dataset lui-même. Par-dessus, Git, c'est très bien pour le texte, quand on veut annoter du code, etc. On a le numéro de la ligne, on peut fabriquer des liens qui pointent directement sur la ligne. C'est super, j'adore, moi. Mais dès qu'on a des données binaires, comment on fait ça, comment on le généralise, c'est pas trivial. Mais je suis devant, s'il y a des idées, moi, je prends, mais du coup, c'est vrai que dernièrement, c'est pas vraiment qu'on n'a pas considéré, c'est plutôt qu'on a abandonné l'idée d'utiliser des issues Git pour gérer les datasets.
En fait, je disais ça par rapport aussi à l'articulation avec les notebooks, parce que le notebook, effectivement, intègre des données, mais le notebook lui-même peut être annoté. Du coup, c'est un outil de workflow quelque part aussi, le notebook, qui est aussi un outil pour la reproductibilité. Du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant, et nous, on le voit sur Airzine, c'est qu'on annote le code, mais aussi voilà, indirectement la donnée qui est utilisée via le notebook, quoi. C'est-à-dire que c'est le notebook qui est le support de la review, quoi. Après, il y a cette question-là, puis après, bon, moi, et là, j'ouvre un petit peu sur la suite, puisque je crois qu'après, on va exploser le temps. C'est sur la délégation de calcul, puisque tu parles de reproductibilité, et dans votre cas, vous avez des choses assez compliquées, je pense, à calculer ou à observer. Et je me posais la question aussi par rapport à SolidIPES, est-ce que vous avez envisagé aussi de la délégation de calcul dans le cas où le reviewer, on ne sait pas pourquoi, voudrait voir si ça tourne bien et s'il obtient bien l'image qu'on lui a donné en résultat. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pourrais intégrer à terme, sachant que c'est effectivement le sujet du prochain webinaire, cette question de la délégation des calculs?
Alors, moi, j'adorerais. Moi, j'ai fait une partie de ma carrière sur des calculs HPC, donc je suis très sensible à ça. Il y a quelques années en arrière, j'avais soumis un projet qui a des liens d'idées avec SolidIPES, où finalement, on voulait faire la délégation de calcul et pouvoir le contrôler via une application web, du notebook en l'occurrence. Donc, je suis tout à fait favorable à chercher. Le seul truc, et pour moi ça a été très nouveau et j'ai dû creuser cette question, c'est tout ce qui est de l'ordre du credential. Moi j'ai un service qui a ouvert un grand nombre, et si on ouvre les portes sur des clusters qui sont, moi je vois je suis dans certains comités pour la sécurité informatique à l'EPFL, ça va être compliqué de montrer patte blanche. Alors moi je suis ravi de voir comment vous comptez faire ça, mais Pour un service ouvert à tout le monde qui a de la validation automatique et une certaine liberté pour les gens d'exécuter des choses, avoir un accès même caché, même tunnelé, etc., à des ressources très très critiques, je suis intéressé de voir quelles sont les solutions qui sont mises en avant. Et merci Marc, si tu pars, parce que plus Marc, j'ai vu tous les commentaires de Marc et c'est très très bien. Merci beaucoup.
C'est super parce qu'effectivement, cette question de la délégation du calcul, on voit qu'elle émerge au niveau des mésocentres parce qu'il y a un besoin, notamment de la communauté du machine learning, si j'ai bien compris, qui a débarqué en force sur les clusters. Effectivement, ils ont besoin d'utiliser plutôt du Jupyter. C'est plus dans leur pratique. Et donc, du coup, on va vers de la délégation sur du Slurm, des choses comme ça, mais c'est des services qui sont mis en place par les mésocentres. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on va essayer d'avoir quelques témoignages en ce sens-là, sachant que la question du credential, elle est un peu, elle est un peu, c'est en fait, soit vous faites partie de la communauté du mésocentre, soit vous n'y avez pas accès, quoi. En gros, pour le moment, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est pareil pour nous. Ils sont refinancés par les labos, hein, les services IT, les clusters. On peut pas, je peux pas fournir un service où il suffit de se loguer, puis d'un seul coup, on peut faire tourner du calcul, alors qu'en interne, les gens payent pour avoir la même ressource. Donc ça va poser un problème. Alors du coup, ça pose un vrai problème pour des calculs un peu conséquents de garantir la reproductibilité, en particulier dans le cas où j'ai dit on se sépare de la donnée. C'est-à-dire qu'on dit elle est coûteuse, mais elle n'est pas assez coûteuse pour justifier le fait de la stocker sur des dizaines d'années. Comment on garantit ça? J'ai deux, trois idées, c'est-à-dire de sauvegarder des choses partielles et puis de faire en sorte que le code soit capable de. Si, un domaine que je connais bien, c'est en dynamique moléculaire, c'est d'avoir des snapshots et puis on repart de ce snapshot et puis on sauvegarde trois, quatre snapshots autour et puis on vérifie que ces trois, quatre. On est capable de les reproduire, mais et du coup on sauvegarde 1% sur de la donnée totale qu'on voudrait garder, et on a quelque chose qui est de l'ordre de la confiance. Mais ça, c'est des idées pour le futur, parce qu'à l'heure actuelle, déjà fabriquer un contexte complet, compilé, etc., de ce qui a été utilisé par l'utilisateur, en soi, c'est déjà un problème, parce que quand on va sur un cluster central, c'est pas nous qui fabriquons la stack logicielle en tant qu'utilisateur. Et donc être capable de la récupérer. Pour la plupart des utilisateurs, c'est même pas la peine de demander. Les gens sont pas forcément capables de le faire. Donc c'est, à mon avis, c'est déjà un enjeu en soi d'arriver à faciliter la vie des gens pour collecter cette information. Si déjà on a ça, déjà je serais hyper content, et c'est plutôt vers ce besoin direct que l'on se dirige là. Pour revenir à la toute première question de Marc aussi ou la deuxième par rapport au Makefile. Oui, la description des workflows pourrait, à l'heure actuelle, on n'est pas fixé sur un format. Ça peut être du Snake Make, ça peut être du Makefile, ça peut être n'importe quoi qui décrit un process. Il y a plusieurs projets qui essayent de répondre à cette question, mais il n'y a rien qui nécessite pas de s'y connaître un tout petit peu et d'éditer soi-même les choses. Et moi, c'est ça le gap que j'aimerais remplir, c'est essayer d'un petit peu automatiser des choses. À l'heure actuelle, qu'est-ce que je fais pour mes auteurs? Je leur dis. Soit tu sais de quoi tu sais comment faire, soit tu me fais juste un script SH où t'as les commandes que tu as tapées, et moi je vais essayer de voir si j'arrive à les reproduire. Ça, c'est pour les cas où j'ai fait la reproductibilité à ce niveau-là, c'est le travail que j'ai fait. Et j'ai quelques auteurs, ils le font bien jusqu'au bout et ils font eux-mêmes, mais c'est plutôt assez rare.
J'en profite alors parce que pareil, on va déborder, on a déjà 20 minutes de retard. Outre le prochain webinaire qui sera justement sur la partie délégation de calcul et l'usage finalement du notebook dans un mode interactif avec le HPC, on construit, et je pense peut-être ça peut vous intéresser, une journée d'études qui aura lieu à l'automne ou au début de l'hiver. 2024, et l'idée c'est justement de favoriser en fait l'ouverture un peu du capot ou de questionner finalement les langages et les couches logicielles employées, donc de dépiauter un petit peu la machine par l'interaction qu'elle a entre le langage de programmation, le langage informatique et la façon dont on parle aussi de la programmation entre nous. Moi, je fais pas de code, je suis pas informaticienne, mais par contre, je suis curieuse de voir comment les gens qui codent peuvent en parler et rendre accessible finalement les. Si je code, bref. Pour l'instant, j'en suis qu'au shell, donc. Mais L'idée, c'est aussi un petit peu de démystifier, de rendre accessible et surtout de permettre, non pas, c'est pas une idée de contrôle, mais comment on puisse dire ce qu'on a fait comme opération. Et le notebook, en fait, nous sert un petit peu d'outil pour décrire ces processus-là. C'est pour ça qu'on ouvre le dialogue à, bien entendu, Jupyter, mais aussi d'autres dispositifs de type notebook jusque Orgmod, etc., pour permettre en fait le multilangage et qu'on traite aussi de la question du literate programming, c'est-à-dire comment on décrit finalement ce qu'on fait et les process qu'on emploie dans la relation en fait à la machine qui calcule, quoi. Enfin, c'est très simplifié ce que je dis, mais voilà. Et donc la journée d'études, en fait, elle a vocation, alors c'est plutôt une rencontre en fait qu'on souhaite organiser entre différentes communautés par rapport à des pratiques et essayer d'engager en fait des langages enfin, des échanges et des dialogues pluridisciplinaires sur ces questions-là pour acculturer les différentes communautés par rapport à, on va dire, plutôt de l'implicite. Et puis, bon, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres personnes qui voulaient échanger, mais ce que j'ai noté là, en essayant de lire un petit peu quelques linguistes connus, c'est peut-être une hypothèse, mais qui est forcément fausse, on pourrait dire que le langage de programmation, pour l'instant, ne se parle pas. Mais il y en a qui en parlent, voilà, par rapport, on va dire, à un langage naturel. Et donc, l'idée, c'est vraiment essayer d'un peu de rendre accessible le langage informatique pour que les gens qui l'utilisent après puissent dire pourquoi ils ont choisi cette langue-là et pourquoi ils l'ont programmée comme ça, et qui permettent justement de rendre accessible toutes les méthodes et toutes les hypothèses scientifiques qu'il y a derrière le traitement des données. Voilà, je pourrais parler encore des heures, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui voulaient encore intervenir, compléter ou ajouter des éléments.
Ben, l'idée, c'est de parler des heures, hein, cette journée d'études. Hein. C'est-à-dire que là, on est limité, et on voit qu'on a envie d'exploser le temps, et puis on sait qu'on a plein d'axes, hein, qu'on essaye d'explorer avec ces webinaires. Là, il y a la question du langage, il y a la question de l'écosophie, il y a la question de la reproductibilité. Et c'est vrai que l'objet notebook croise un petit peu les métiers et les points de vue sur différents axes. Et c'est vrai que la journée d'études, ben, c'est vraiment le lieu pour parler des heures de tout ça. Et essayer d'en tirer un peu une base des connaissances, hein. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup, mais on aimerait aussi le mettre un peu à l'écrit. Donc, on aimerait aussi, pendant cette journée d'études, organiser un book sprint, mais un peu l'équivalent, c'est-à-dire essayer de, voilà, de discuter, de mettre à l'écrit toutes ces idées qui se croisent dans tous les sens, et avec un point de vue un peu interdisciplinaire. Et ça, ce serait déjà un chouette objectif aussi sur cette journée d'études. Voilà. C'est pour dire qu'on a l'argent pour la faire, cette journée d'études. On va la faire. Ça tient aussi de votre participation sur aussi les idées, hein, que vous avez envie d'amener à cette journée d'études. Donc on enverra un mail sur la mailing list voilà, pour rappeler un petit peu, bah, la journée d'études, les idées qu'on a et ce qu'on attend aussi de la communauté, c'est-à-dire d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles discussions. On présentera un template et puis après, libre à vous de, voilà, d'y participer aussi, quoi. Est-ce qu'on clôture, Raphaël? Je crois qu'on est pas mal.
Oui.
Ben, merci infiniment, Guillaume et Raphaël. Je crois que c'était clairement de l'avis de tous et de toutes passionnant. Moi, j'aurais vraiment plein de questions à poser et j'espère qu'on vous verra à la journée d'études pour discuter de tous ces aspects-là. Vous êtes bien sûr invité, il n'y a pas de souci.
C'est quand?
Alors, on n'a pas de date encore. C'est juste que ce n'est
Ah,
pas
ok.
pendant les JO, donc ce serait plutôt à la fin de l'année. Ce
D'accord.
sera plutôt fin d'année, parce qu'effectivement, là, les JO 2024 faisaient que tout était impossible sur Paris. Donc, voilà, ce sera
D'accord.
probablement sur Paris et on y travaille. Et puis, voilà, voilà, la vidéo sera disponible et puis on continue à discuter aussi par la mailing list, c'est fait pour ça. Voilà. Merci encore.
Alors, je vois qu'on demande les présentations. Je peux vous les envoyer par email si. Enfin, je peux
Ouais.
envoyer ma présentation par email.
Ouais, on est preneur, effectivement, pour les
OK.
mettre, ouais, top.
OK. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous.
Merci beaucoup, super.
Merci.
Merci.